Merci Eric pour cette communication très riche et pour cette effectivement tentative de parler. Juste peut-être une précision sur le contexte sociopolitique, tu en as dit deux mots, mais rappelez que 85, enfin pour peu qu'on passe, c'est quand même le moment où les Français vivent une expérience assez incroyable, qui s'appelle la cohabitation. Hein, on a un président socialiste et puis un premier ministre Jacques Chirac de droite, avec une bande de durs quand même, Pandreau, Longué, tout avant. Cette conjonction de la politisation des luttes que tu évoques, hein, à travers le problème, enfin, la grotte d'Ouvert étant un petit peu et puis ce qui se passe aussi au niveau de la prise de parole des Bérus, c'est aussi lié à ce contexte-là. Et que l'articulation, elle est aussi sociopolitique, finalement, enfin, dans tout ce que tu penses, juste pour les plus jeunes d'entre nous qui auraient oublié cet épisode assez particulier. Et c'est pour ça que quand tu disais. Les leaders allaient voir les socialistes, c'est même assez étonnant, parce qu'ils allaient voir ceux qui théoriquement étaient au pouvoir, parce que Mitterrand était toujours au pouvoir, mais qui ne l'avaient plus.
Et qui jouaient justement un rôle en disant, nous maintenant, on peut essayer de vous aider.
C'est ça. Donc c'était juste une précision contextuelle.
Voilà. Avec les manifs de 86, de décembre 86 aussi, qui est en point d'orgue, d'un moment où on pensait aussi, et là dans l'élan de la fois de la scène alternative et de la manière dont elle jouait beaucoup avec l'image hein, des autonomes, etc. Il y avait cette idée d'une possible révolte sociale, hein, que les grandes manifs dégénèrent, et disaient qu'il y ait plusieurs milliers d'autonomes qui foutent la pagaille, et à ce moment-là, qu'il n'y ait plus assez de policiers
pour rétablir l'ordre. C'est pas étonnant qu'il y ait un t-shirt Kanaki au Conseil de l'Union. On retrouve quand même cette communauté de pensée.
Voilà, le même ennemi aussi, l'État français. Et les mêmes stratégies, finalement, les mêmes méthodes. En fait, le journal qu'on faisait, qui s'appelait Kanaki, pour Indépendance Kanak, c'était vraiment un fanzine, quoi. Enfin, c'était vraiment le même type de travail, ça s'organisait de la même manière, des mêmes techniques de do it yourself et tout ça. Donc dans le militantisme et la musique, il y avait vraiment aussi une connexion là, de méthodes, et de méthodes, on pourrait dire, de résistance, sans en exagérer le poids, parce que c'était pas la résistance non plus, mais de résistance politique, mais aussi de résistance à un milieu qui est fermé, par exemple, hein, quand on est un musicien pas reconnu ou un mouvement qui essaie de se faire entendre, etc.
J'ai une question pour toi, ton séminaire de recherche, alors je vais parler justement. Est-ce que tu as travaillé sur les Kanaks, pas travaillé sur le punk parce que c'était trop compliqué? Parce que je t'ai entendu parler ici des Moulinots.
Oui.
C'est en ligne. Tu as commencé par quelque chose qui m'a beaucoup touchée, d'expliquer qu'en fait c'était quelque chose de différent, pas de difficile, mais de compliqué vis-à-vis de toi. Oui. Parce que tu n'es pas tout seul dans ce cas-là. Dans les groupes, il y en a plusieurs pour qui c'est quelque chose de compliqué, pour qui le rapport est difficile.
Non, mais la question elle fait tout à fait sens, mais j'ai pas choisi de travailler sur les Kanaks pour pas travailler sur le punk, mais par exemple, parce que les Kanaks m'ont un peu choisi, disons, parce que j'avais 16 ans, que j'ai commencé à militer. Mais par exemple, clairement, à un moment donné, j'ai fait le choix de travailler sur les Kanaks, à un moment où j'aurais pu travailler sur le sport, sur le football, où j'avais fait ma maîtrise sur le football, et je l'ai écrit là dans la présentation quelque part, et c'était spécial, et plein d'œil à Luc Robben, qui est historien du sport. C'était, genre, voilà, aujourd'hui, ce qu'on fait là, travailler sur le punk, c'est un petit peu travailler sur le sport il y a 20 ans. C'est-à-dire que c'est pas... Qu'est-ce que c'est que ça, c'est n'importe quoi, machin. C'est genre, c'est sympa, c'est marrant. Là, je vous dis aussi des réactions, par exemple, quand je poste les annonces du séminaire punk, c'est, ça c'est Eric, ça. Toujours des trucs un peu originaux, exotiques et tout ça, quoi. Toujours pour se faire remarquer. Voilà, mais comme vous direz, peut-être, peut-être comme la concierge de mon immeuble, quand les Bérus étaient venus pour l'interview chez moi et qu'elle avait sonné à ma porte en disant. Il y a une bande de gens là, bizarres, etc. Ils disent qu'ils viennent chez toi. Oui, madame la concierge, c'est un groupe très connu. Moi, je m'en fous, je laisse pas rentrer des gens comme ça. Je sais pas qui c'est, il y avait toutes les disques, quoi. Voilà, c'est plus discret du tout. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de. C'est nouveau, il faut. Alors, sans exagérer, ironiser, puis passer pour le mec cool qui amène le punk à l'EHESS, il y a clairement un problème de légitimité qui est pas seulement parce que le punk est un objet qui fait sourire, etc., mais qui est. Aussi peut-être le fait de travailler sur un angle, une approche, peut-être c'est punk studies, mais ça se discute parce que ça n'existe pas, ça se crée les punk studies, mais est-ce qu'il faut créer des punk studies? On doit contribuer à ça parce que sinon on n'existe pas, mais on doit le combattre aussi parce qu'être enfermé dans une étiquette punk studies, c'est pas intéressant. Nous on veut parler de la France des années 80, on veut parler de mouvements qui vont bien au-delà finalement de simplement de scènes ou de milieux finalement tous aussi typiques les uns que les autres, mais pourquoi pas la beat scene ou l'électro à ce moment-là, puis ça devient un ensemble de niches qui n'ont plus aucun intérêt sociologique autre que l'intérêt pour des aficionados ou des fans quoi. Du coup, non, forcément, quand je dis le sport il y a 20 ans, parce qu'aujourd'hui, l'année dernière, on a fait un séminaire sur le sport à l'EHESS, c'était « Ah, c'est un thème important, c'est bien de le faire revenir à l'EHESS ». En 20 ans, les thèmes évoluent et prennent un peu de galon, si tant est que ça devient un thème ou pas l'histoire du punk, mais en tout cas, c'est clair que ça ne c'est pas très payant académiquement, ça pouvait pas l'être, etc. Mais à l'époque, quand j'ai fait ce choix, c'était pas ça, c'était plutôt... Moi, j'ai vachement suivi le mot d'ordre de « on se saborde », quoi. On se saborde, ça commence à trop marcher, ça devient mainstream, les gens viennent au concert, puis après, ils font autre chose la semaine, ils ont plus aucun investissement dans une, ce qui pouvait sembler comme une cause à la fois sociale et politique. Et pour moi, le combat était clairement ailleurs. Il était à, du côté des Kanaks, où là, il y a une lutte qui pouvait vraiment se poursuivre et aboutir à quelque chose de plus profond que simplement d'aller à des concerts et voir les Beirut devant 5000 personnes avec, voilà, qui gâchait complètement finalement, toute cette idée aussi d'un milieu homogène où il pouvait y avoir des échanges entre les uns et les autres. S'il y avait eux et nous, en fait, c'était plus ça, quoi.
J'avais une question sur la... courte, sur la valeur collection, parce que mais tu vas sans doute pouvoir répondre, toi qui spécialise au CNX. Est-ce que c'est pas... J'entends hein, la construction du concept, mais est-ce que c'est pas un petit peu comme le... Est-ce que pas quelque chose de purement occidental, cette idée-là? C'est-à-dire quelque chose de société riche, au fond, qui ont pu évacuer la question du comment on vit, comment on bouffe, etc., pour pouvoir ensuite collectionner, parce que là, on est quand même au-delà du strict nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette question, je l'entends, hein, mais je suis pas sûr que ce soit un concept qui puisse aller au-delà de... un certain type de frontières, si tu veux. Pour le dire d'une autre manière, collectionner du fanzine, c'est-à-dire du papier hein, ou de la cassette, ça va bien si t'as si t'as de quoi bouffer, quoi. Hein, Donc c'est ça ma question.
Tout à fait. Alors ça renvoie aussi, alors là pour le coup, de manière un peu ironique et faut pas le comment dire l'écarter. Ça nous renvoie nous aussi à la propre valeur de notre propre histoire et peut-être cette phrase de Malraux, la biographie, ce misérable petit tas de secrets ou misérable tas de petits secrets ou je sais pas quoi. C'est-à-dire aussi comment finalement ça donne de la valeur non pas aux objets, mais à ceux qui ont un lien à ces objets, hein, qui ont vécu avec, qui les ont créés, qui les ont possédés, etc. Ça c'est certain. Et surtout, je crois que là où c'est intéressant, c'est que ça emprunte ces mécanismes d'authentification, de légitimation, de patrimonialisation, alors même que toute la vulgate du punk, c'était de se construire contre ça, justement. Hein. Et que, justement, moi j'ai tout donné, j'ai donné les fanzines, j'ai donné les disques, etc., j'ai quasiment rien.
C'est pas bien,
les fanzines sont à la fanzinothèque quand même. Et en même temps, je pense que si j'avais à l'époque, voulu garder en disant je vais archiver, machin, etc., ben à l'époque, j'aurais pas été celui qui aurait fait et rassemblé ça.
Alors, archiver sa vie, c'est une chose.
Ouais.
Collectionner, c'est autre chose.
C'est autre chose. Mmh. C'est autre chose.
Il faut être clair, la plupart des musiciens, contrairement à ce qu'on pense,
ils ont les archives.
J'ai archivé ma vie.
On a plein.
Par contre, la collection, on pourrait en discuter parce que.
C'est un truc à part la collection. Je l'ai mis là parce que c'est vraiment intéressant parce que ça nous.
Je connaissais pas le concept donc ça me.
Ouais, voilà, et je trouve que c'est un truc qui est sorti récemment, là, de Bolton Street, tout ça, et c'est intéressant comment ils posent ça parce que finalement, il y a un site, moi, que. Le meilleur site, je pense, internet de tout, c'est Le Bon Coin qui vous rassemble et qui vous montre, qui met tout le monde à égalité. Hein, les mecs qui aiment les voitures, les mecs qui aiment le punk, les mecs qui aiment n'importe quoi, des gens qui aiment toutes sortes de choses, et pas seulement pour les collections, hein, pour les maisons, les voitures, tout quoi. Ouais. Et ça renvoie tous à cette idée de la valeur et comment attribuer, évaluer un objet, etc. Comment il est mis en valeur, comment il est photographié. Et c'est une gigantesque vitrine de tout ça, de ce rapport qu'on a aux objets.
Ce que dit Reboul, philosophe de l'éducation, il dit la valeur c'est ce qui vaut la peine. Est-ce qu'il vaut la peine qu'on lui sacrifie autre chose? Donc est-ce qu'on est là-dedans?
Il y a Baudrillard, quand il parle de l'objet ancien. Il explique justement l'espèce de transfert culturel qu'on fait d'une époque passée, d'une nostalgie quelque part sur un objet, et il prend de mémoire l'exemple de la... Enfin, il parle des objets de collection, il parle beaucoup de collection dans... c'est pas la suite de consommation, c'est celui d'avant, c'est... bon, ça va vraiment venir. Qui est super, un bouquin génial, hein, mais sur les quelque chose des objets, je crois.
Le système des objets,
voilà, oui, qui est un bouquin fantastique. Quoi. Et il parle de la longère normande, le gars qui retape une vieille longère qui est plus en état, donc il peut pas rester comme ça. Par contre, il va garder des petits bouts de l'architecture ancienne pour que dans son truc moderne, ça fasse... Ouais. Authentique, etc. Donc c'est l'espèce de... Enfin, moi, je vis tellement ça que j'ai récupéré un vieux Tepaz et je m'amuse à regarder quels sont les 45 tours qui sont nés après le Tepaz, qui passent encore là-dessus, parce qu'il fallait qu'ils soient assez faits. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette espèce de transplantation. Alors, c'est pas la collection, parce que la collection, c'est pour ça, c'est mieux objet ancien. Vraiment, ce concept que Baudrillard a introduit, qui met à part de l'objet de collection, qui renvoie à la notion de collection, qui est une espèce de manie, qui est d'un autre ordre et qui, pour le coup, renvoie plutôt aux gens qui font des taxonomies, classifient les papillons, etc.
Alors que l'anthropologue,
en fait. Non, mais bon, il y a toute une analyse de ce que c'est qu'un collectionneur. Mais par contre, l'objet ancien, c'est quand même autre chose. C'est l'espèce de légitimation d'un passé. Et là, ça renvoie complètement à votre concept d'authenticité.
Ouais. Alors, je pense pas mal aux travaux de Jean Bazin, là, qui a écrit justement, d'une part, des trucs sur le chalet basque, justement, et comment il est... véhicule une authenticité, etc., alors même que c'est la bonne construction, etc. Et puis sur cette idée de l'anthropologie comme productrice de taxonomie aussi, qui dit qu'ils n'ont de scientifique que l'apparence, c'est-à-dire mais classer les sociétés et classer à l'intérieur de sociétés les éléments entre justement chaud, froid, important, secret ou profane, etc., cru, cuit, etc., hein, avec tout le. Enfin, sans remettre en cause non plus toute cette idée de qu'on puisse justement analyser et penser que des choses ont des statuts différents dans les sociétés quand même, et des différences selon les individus, selon les âges de la vie, etc. Parce que c'est forcément important. Et le punk, d'ailleurs, doit être pensé comme quelque chose dans un parcours d'une société, d'un individu, etc. Et pas justement comme quelque chose qu'on extrairait comme de son contexte. Mais par contre, effectivement, je crois que toute cette histoire de collection, c'est intéressant pour nous parce que tout à coup, ça nous fait passer... Ça nous fait rentrer dans... Ça banalise finalement. Ça fait que le punk devient un objet comme les autres aussi. Et pour moi, c'est une façon de dire, comme je baillard sur l'Afrique, c'est des sociétés comme les autres. Le jour où il y aura science politique de l'Afrique ou sociologie de l'Océanie, et plus seulement anthropologie, on aura gagné. C'est-à-dire l'idée que justement, on n'est plus dans... Ah ben nous, on a de la sociologie, mais les autres, c'est l'anthropologie. Eux, c'est le symbole, le mythe, etc. Alors que nous, c'est concrètement les enjeux sociaux, etc. Non, en fait, justement, je crois que le travail, là, et faire que le punk, justement, il a inséré le punk, je ne sais pas ce qu'on fait, mais a des réflexions sur de sociologie urbaine, d'anthropologie symbolique, de ci, de ça, et plus seulement un sous-genre dans une sous-discipline qui serait l'anthropologie de la musique alternative et le punk. Même si, effectivement, c'est ce champ-là qui l'a fait exister, qui en a créé les... Et je crois que vraiment l'enjeu, c'est que le punk soit... une partie de cette société qui a aussi enfanté le punk, en fait. Voilà. Et, ouais.
Bon, merci beaucoup pour vos interventions. Et du coup, j'ai posé une question quand même très... d'abord, merci Eric aussi de revenir sur cette idée d'authenticité et d'invention qui, finalement, sont des concepts très fous. Et moi, sur le terrain aussi, je travaille avec... les Amérindiens, et du coup il y a tout un contexte de politisation des identités, de mise en scène des traditions, et finalement qui au début, enfin moi ça fait 18 ans que je travaille sur ces terrains, je ne rajeunis pas, mais alors du coup les premières années je vois des choses très novatrices où je me dis waouh, c'est bien, c'est créatif quoi, et finalement 2 ans plus tard c'est considéré comme tout à fait presque ancestral, ouais. En fait, parce que ça fait sens je pense pour les gens sur place. Et que du coup, c'est intégré avec des choses très novatrices pour certains, mais avec souvent un sens politique très fort, mais qui reprennent des choses qui ont du sens pour les gens. Donc du coup, voilà, c'est puis des choses qui prennent moins. Voilà. Donc en fait, ça m'a beaucoup parlé. Et sinon, je voulais vous poser une question très naïve. Du coup, c'est quoi le punk aujourd'hui ? Parce que en fait, j'ai beaucoup entendu. Moi, je ne connais pas cet univers-là. Mais je suis plutôt hippie, tout ça. Et du coup, moi, ça m'est un peu étranger, mais sur mes terrains, aujourd'hui, où je travaille sur des néo-ruraux et des univers alternatifs qui vivent en collectif, du coup, il y a pas mal de gens qui viennent de soi, d'univers urbain, et du coup, qui sont considérés comme punk, et quand je fais les entretiens avec eux, en général, ils veulent pas du tout se revendiquer comme punk, en général. Enfin, pour ceux avec qui j'ai fait les entretiens. qui veulent pas être catalogués, en fait, c'est ça, qui veulent pas être catalogués et tout ça.
Nous, on a décidé pour Parle qu'on allait prendre en compte, pour l'instant, tous ceux qui se désignent, donc là, c'est pas le cas dans ce que tu dis, et...
qui sont désignés par les autres, en fait.
Voilà, c'est ça.
Et les phénomènes de...
Donc, d'auto-identification comme les indigènes, en fait, du coup...
Voilà,
après, on verra, parce que par exemple, du point de vue musicologique, nous on réfléchit, est-ce qu'on peut trouver un idiolecte, est-ce qu'on peut trouver des caractéristiques musicales, vocales, etc., qui fait que, sans modéliser tout, on peut dire ça, quand même on y est, et ça, on n'y est pas.
Sur 40 ans, hein,
parce alors voilà, avec tout le problème des 40 ans, de l'évolution, des générations, il faut le faire à l'intérieur de générations définies, mais de toute façon, on a un vrai problème avec ça, maintenant nous. Que les acteurs à qui on parle, alors moi le dernier en date c'est quelqu'un qu'on a rencontré à Tours, je vois pas Hyacinthe mais elle est là, donc on a rencontré à Tours avec lui qui est Hyacinthe qui s'appelle David Euthanasie, c'est pas son vrai nom mais Euthanasie encore, et David c'est un punk, on appelle ça punk collectionneur, alors David lui il a un site, c'est un, il a trois garages pleins d'archives qu'il collecte, je pense que de temps en temps il vend des affiches originales pour en vivre, donc on retombe aussi sur la notion de collection de valeur marchande. Et David prétend que le punk, ça dure entre 78 et 84. Et il a des avis très très tranchés comme ça. Et la dernière fois, il me dit de façon gogol, c'est pas punk, les verrues, c'est pas punk. Et puis lui, par contre, c'est punk parce que... Et il n'en démord pas. Ce qui fait que s'il y a des conversations un peu douloureuses, parce qu'en fait, on a envie de lui dire, mais on s'en fiche, nous, c'est notre c'est tes archives. Et puis, bon, et c'est hyper intéressant comment la mémoire est... Eudeline, qui a ici les Moulineaux, nous dit punk en 77, il n'y a plus de punk, c'est fini. Donc tous les autres, c'est une imposture. Bon, donc du coup, vous êtes des imposteurs parce que vous travaillez sur les années 80. Bon. Et y a, moi, j'ai tout. Enfin, moi, je n'ai pas non plus à la musique baroque, donc il n'y avait pas des débats comme ça pour savoir qu'est-ce que c'était baroque, c'est ce qu'il n'était pas. Mais on a vraiment une espèce de guerre de mémoire des acteurs. Alors, c'est comme les punks d'appartement, et les punks, nous, c'est plutôt pas tant punks d'appartement et punks de maison, c'est plutôt des histoires de date et de génération, en fait. Il y a très clairement des segments...
Oui, enfin, c'est parce qu'on est au début du projet, enfin, je veux dire, son chaise sur cette question-là, notamment, ça se pose dans les années 80, quoi. T'es un vrai... Si t'es un duré que tu vas dans les squats, et puis autrement, bon, de chat, quoi. Bon, en gros, clairement...
Et c'est vrai que ça peut retrouver des appartenances musicales, au sens où, par exemple, certains disaient que bah, voilà, les Berrues, d'autres c'est la musique des petits parisiens, bourgeois, etc. Et c'était pas ça le vrai punk, et qui pensent que comme il t'insecte, t'es plus punk. Et de cette manière, je veux dire en partie leur donner raison aussi, c'est-à-dire qu'il y a à côté une expérience, des groupes qui sont beaucoup plus proches de l'expérience vécue, qui est d'abord une expérience de rejet quotidien, de petit quotidien du punk, et qui n'est pas forcément celle d'un projet politique. Soutenu par une musique, des chansons, et voilà, qu'on peut trouver quand même des lignes un petit peu d'opposition entre des groupes qui ont envie de délirer, qui s'en foutent de tout, et puis les Berrues qui se prennent vachement au sérieux à un moment, en tout cas, sur une cause.
C'est pour ça que ce que je disais en introduction, c'est aussi qu'il faut le considérer de manière dynamique, c'est-à-dire au-delà des phénomènes d'autodéfinitionnalisation, c'est aussi un champ de concurrence dans lequel les types luttent pour. La légitimité. C'est-à-dire, on s'oppose aussi. Hein. Donc, il y a une dynamique sur cette question de la définition. Et je pense que, d'une certaine manière, si on pose ça comme horizon, c'est un horizon du projet. Mais alors, voilà, juste pour terminer, ça se complique du fait que les gens, dans leur propre récit, se font donc, comme dit Bourdieu, les idéologues de leur propre vie, ouais. Puis racontent que finalement, non, ils n'ont jamais été, pas un bout de l'été là et pas là. Enfin bon, c'est très très compliqué.
Il y a deux questions. Juste un truc qui m'a frappé, c'est que j'ai trouvé par exemple des trucs de la cassette Cacophonie et tout sur un site fait par les gens du groupe N Brigade, qui était un groupe proche des Berrues, de Lyon, qui avait un fanzine, ça avait Canaille, je crois. Et qui était proche de la librairie des anarchistes, de la griffe. Mon autre copain qui avait fait une fugue, je les avais envoyés chez eux, ils les avaient cachés pendant un mois, tout ça. Bon. C'est des gens assez sérieux, engagés comme ça dans un truc limite autonome et avec une sympathie pour action directe, tout ça. Bon. Et sur leur site aujourd'hui, je vois, ils ont rassemblé plein de trucs, y compris des choses de groupes considérés à l'époque comme fachos, ce qu'ils n'auraient jamais fait à l'époque, parce qu'ils étaient absolument antifa. Mais là, il y a une sorte de tolérance pour des groupes punk, des mecs pour dire
des conseils. Une dans la mémoire.
Ouais. Et puis le site s'appelle Les Vieux Cons. Alors qu'à l'époque, ils étaient quand même vachement au premier degré. Je me souviens qu'on avait envoyé une lettre avec le Fanzine en disant on t'envoie Cacophonie pour que tu le critiques et que tu le juges. Et les mecs, ils avaient envoyé une lettre en disant mais les gars, on n'est pas un tribunal, personne ne doit juger les autres, etc. Et nous, on n'avait rien à faire, mais ils se posaient vraiment sur un truc hyper égalitariste, anarchique, etc. Et aujourd'hui, ils disent les vieux cons. Voilà. En même temps, quelqu'un qui change pas
d'avis. Il y aura une tournée, les vieux cons. Ça marche bien.
On y est déjà un petit peu. On y est un peu déjà. Hein.
Juste pour finir, en fait, sur ce terrain alternatif, il y a plein de punks qui sont désignés comme punks paysans, donc des tondeurs de moutons et tout ça. Ouais. En fait, tout ce univers-là.
Plus aujourd'hui,
hein, Estelle Girard, elle est partie là, mais elle avait fait une présentation sur moi sur l'époque des champs.
Punk bâtisseur.
Estelle
Girard, qui est là dans le bureau.
Super, parce que ça va mourir, parce que moi, du coup, c'est ça que je
pense. C'est enregistré, en
fait. Il y a un retour à la
Terre.
Il y a un retour
à la Terre.
Complètement en avec le
c'est une vraie révolution, mais pour le coup, voilà. Tour total.
Vous me donnerez les réponses.
Il y a deux questions là-bas. Monsieur.
Oui.
Olivier, peut-être, vous pouvez la cassette.
Okay. Oui, je crois que on en parle souvent, mais la question de la définition est quand même une question centrale. On l'évite et on y revient en permanence. C'est une question qui est au cœur même de l'ANR et qui suscite très certainement entre les différents membres de cet ANR quelques débats, quelques tensions peut-être même. Est-ce qu'on le circonscrit, est-ce qu'on tente de le définir, et définir ne veut pas dire essentialiser. Dans votre communication, c'était très intéressante, où j'ai pris beaucoup de choses, il y avait un rapport que vous faisiez entre définition et essentialisation.
C'est un raccourci, si j'ai dit ça.
Oui, c'est un raccourci, mais un peu forcé, et qui est resté néanmoins. Et on peut avoir une définition poreuse, on peut avoir une définition large. Le langage permet une souplesse, c'est à nous d'être adroit dans la manipulation du langage. La deuxième chose, c'est qu'on n'échappera pas de toute façon à un moment ou à un autre à la définition de ce que c'est que le punk. On serait bien les seuls à ne pas pouvoir le définir, finalement, le punk français. Et d'autre part, on ne peut pas, me semble-t-il, considérer que depuis 1975, en gros jusqu'à aujourd'hui, il y a une sorte de continuum, parce que là encore, il faudrait par comparaison voir ce que font nos amis allemands, nos amis hollandais, nos amis américains, nos amis anglais, etc., avec cette question-là. Donc, on est confronté, c'est le problème de l'État, mais on est confronté à ça. Je voudrais revenir sur un point, parce que ça m'a beaucoup intéressé, parce que ça rejoint les centres d'intérêt qui sont les miens. Vous avez parlé beaucoup des canards. Et je ne connaissais pas, je ne me souvenais pas des textes de rue, des t-shirts, etc., etc. On est dans un moment tout à fait crucial dans l'histoire de la société française, vous l'avez dit. Et ce qui m'intéresse là, c'est qu'en réalité, dans la contestation musicale, on s'intéresse de manière exotique aux canards. Et alors que la France est elle-même en proie à ses démons intérieurs, avec les fameuses colonies, les fameuses colonies intérieures dont parle Sartre dès 70, au procès de Burgos. Je pense en particulier au Basque. C'est un moment de très très grande activité de militantisme et de combat armé. Les années 86, 87, 88, c'est à peu près 50 morts par assassinat par an.
Ouais.
Au nord, non, mais on a un groupe actif qui est hyper Carac. Au sud, on a le tout. Et alors c'est très intéressant parce que de ce fait, la défense des peuples colonisés devient une défense exotique. L'ailleurs est inoffensif, on peut porter en t-shirt. Par contre, c'est beaucoup plus délicat de défendre les colonisés intérieurs.
Pour ce qui est de la question des Basques, par exemple, il y avait un groupe qui portait beaucoup cette cause côté punk, c'est Cortatu. Et Cortatu faisait des tournées ici. Enfin, il y a des concerts avec le mouvement alternatif, les Beru, etc.
Il y
a des très forts. Ah ouais, en tout cas, dans mon esprit, après, encore une fois, je n'ai pas cherché là-dessus. Mais à Andal, là, j'ai.
Oui, on va aller...
Non, en tout cas, la présence, il y avait les Basques et les Kanaks, c'était présent, c'était vraiment très présent, je pense. Hein, mais ça serait intéressant effectivement de voir comment, etc. Parce que
c'était pas une critique. Hein,
non, mais ça posait seulement des problèmes parce qu'il y avait des réels problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, connaître des gens, ces gens qu'on croisait, des portables, etc., c'était potentiellement dangereux. C'est qu'on pouvait aussi arrêter, avoir des perquisitions, etc. Hein, ou le Belge de la Bufanzine qui s'appelait Symphonie Urbaine, là, Antibes, bon, il était très parano, il se cachait toujours au fond de la voiture, tout ça, mais mais ils connaissaient les gars des CCC, les cellules communistes combattants. Donc effectivement, c'est des gens qui pouvaient être arrêtés, et d'autres gens qui les connaissaient pouvaient être arrêtés. Donc effectivement, ça posait des problèmes de sécurité. Mais je crois pas que... Enfin, moi, je verrais pas ça comme une opposition qui serait ceux de loin, oui, alors que les Basques ont été vachement soutenus aussi par le mouvement punk, les Basques, les Bretons...
Les Bretons aussi.
Les Bretons, j'ai l'impression que c'est plus récent. À l'époque, c'était moins fort, hein, mais le mouvement aussi était moins radical que les Basques, mais... Ouais. Mais Laurent, les Ramoneurs de Minette, les concerts, c'est 44, il y a le BZH... Hein. Ouais, c'est ça. Mais pas forcément, à mon avis, un slogan très majoritaire, ni dans le 44, ni dans le BZH, je pense que ça, on devrait la foutre, mais... écouter un morceau, quand même, parce que... morceau du groupe Panique, LTDC, qui veut dire le troubadour du chaos. C'est un morceau qui parle du festival de Cannes, en fait. Ah voilà, parce qu'ils ont un petit peu foiré leur mise sur le tube, je crois. Interpréter des fois des paroles en prêtant des intentions qui sont pas celles des auteurs, tout ça, mais juste l'expression le troubadour du chaos. Enfin voilà, les troubadours, pour quelqu'un, ils font partie du. Hein, c'est même. Ils ont un rôle spécifique quoi, dans une société. Je trouve que ce groupe s'appelle comme ça parce que c'est Panique LTDC et chante cette chanson. Dit voilà aussi la place du punk qui se pose un peu comme un troubadour, c'est-à-dire qu'il peut permettre d'inverser les valeurs, de dire des choses choquantes, etc. Parce que c'est son rôle, qu'on tolère ça chez lui, quoi. Et du coup, c'est dire à quel point aussi il est partie prenante de la société qui critique, il en est indissociable, et il en est un élément indissociable aussi. Il y avait une question pour moi.
Peut-être une question pour vous, c'est vrai, c'est que... Bon, opter pour la définition du chant par autonomie, c'est en fait vachement malin et pratique sur un truc qui est aussi autant débattu sur l'appartenance.
Autonomie, je précisais parce que le mot est pas bien.
Autonomie,
l'autodéfinition,
le terme appliqué à soi-même.
Ouais.
Mais c'est une question bêtement pratique, comment est-ce que vous gérez pour le projet? Du coup, des trucs comme les Redskins, la bande au Saint-Sauveur, actuellement, les Psychobilly qui traînaient dans les drogues, qui se définissaient, en tout cas dans les années 80, et qui continuaient largement à se définir largement comme non-punk, mais on allait tous ensemble, quoi. Concevoir l'histoire du punk parisien à la fin des années 80, de groupes comme Witches Valley, qu'on va plutôt mettre dans le punk, sans. Le reste du mix est archivé. Je sais pas comment est-ce que vous gérez. C'est pas une critique,
hein,
question pratique. Que faire des baroques dans ce genre de cas, quoi.
Comment?
Que faire des baroques, par exemple, dans ce genre de cas, comment?
Des baroques en tant que. Sur la question, parce que nous on est parti effectivement de cette auto-définition, auto-désignation, mais aussi catégorisation. C'est-à-dire que c'est pas seulement ça, hein. On n'a peut-être pas assez insisté sur les modes d'étiquetage, par exemple, qui soient créés par les labels, qui soient ceux des magasins de disques, et ça commence très vite. Ça commence très vite dans les magasins de disques, il y a des espèces de. On communique sur regarder ce qu'il y a dans le carton punk, par exemple. Alors c'est très surprenant, hein, d'ailleurs, parce qu'on y trouve du téléphone, on y trouve des choses qui peut-être nous interrogent aujourd'hui. Pour nous, en croisant, c'était une manière de démarrer. Alors on ne dit pas qu'on en restera là, mais si on partait un petit peu comme Piaget avait fait avec le jeu d'enfant, il disait le jeu, c'est ce que fait l'enfant quand il dit qu'il joue. Hein, bon voilà. Et c'est ce qu'on fait après les gens qui travaillaient sur les enquêtes sur le sport, parce que va définir le sport, beaucoup c'est pareil. Hein. T'as le même problème, donc les premières enquêtes sur les parties culturelles des Français et sur le sport étaient constituées de la même manière. Le sport, c'est ce que les gens font quand ils disent qu'ils font du sport. Ça permettait d'inclure le jogging aussi bien que le foot de compétition, tu vois. Donc, bon, à l'époque, on y est. Hein, si tu veux, alors répondre, est-ce qu'on met les psychobillies ou pas, j'en sais rien. Ça dépend où ils en sont de leur discours, comment ils vont se définir eux-mêmes, par exemple, par rapport à leur position dans les années 80. S'ils restent sur des positions excluantes, ben non, on ne les prendra pas en compte. Si leur discours a changé, ben, il faudra à la fois tenir compte de la position initiale et de ce qu'ils en disent aujourd'hui. Je parlais de la complexité du regard, hein, en arrière. Pour en avoir discuté avec Marsu sur le label Bondage, Marsu disait, au fond, Bondage, c'est pas un label punk, c'est un label alternatif, et on était une espèce de famille globale où il y avait du punk, mais il y avait bien plus que du punk. C'est pour moi la définition de l'alternative, d'ailleurs, une scène dans laquelle les gens s'entendent sur des projets collectifs, à l'écart, hein, ou en marge des grands systèmes. Bon, ça me semblait être une réponse sensée aussi sur ce qu'on peut aborder, c'est-à-dire il y a le punk comme matrice, hein, de la scène alternative, et puis des cousinages. Mais qui peuvent être locaux, parce qu'après tout, les psychobillies, moi aussi, ça ne me dit pas grand-chose. Peut-être qu'à Paris, oui, pour tel groupe, tel, tu vois, mais pas à Bordeaux, j'en sais rien. Donc, tu vois, ce sont des réponses, des éléments de réponse que je te fais, mais qu'on va devoir tester, valider dans le temps. J'ai pas de réponse toute faite. Hein.
Voilà. Peut-être aussi.
Prendre Boucan Pelletier. Pelletier, il s'est jamais défini comme punk, il s'est défini absolument pas comme punk. Les Roy Rock, ça parle de punk tout le temps.
Bah ouais, alors si tu
me mets pas sur l'étagère, il y a un moment où aussi la place de l'étagère.
C'est très compliqué. Moi, c'est pas pour parler de ma gueule, je joue dans Striking, qui est un groupe, aujourd'hui, qui, quand tu parles du punk. Je te dis, moi, j'ai jamais été punk. Enfin, Strictly, il a quand même joué à Mont-de-Marsan, avant plage. Et si tu veux, bon, les bras m'en tombent quand il me dit ça. Et moi, c'est le blues, ça a toujours été le blues. En fait, il est en train de recomposer sa vie. Bon, mais t'en fais quoi? Bah, tu vois,
mais au TH, pareil, ils ont jamais été punk.
Bon, c'est pas seulement une question de sous-genre ou de qui fait quoi. C'est que les acteurs eux-mêmes, dans leur propre vie, et puis parce que qui vient d'avoir 60 ans, qu'il est ailleurs, que bon, voilà. Donc, c'est très, très compliqué.
Mais c'est pour ça que je crois que justement dans un projet et dans des recherches en général, parce que ça ne se limite pas forcément au projet, il y a des choses qui relèvent d'enjeux spécifiques au champ, par exemple de l'histoire ou de la musicologie et des études sur la musique, par exemple, où effectivement à un moment donné, et je pense qu'à un moment donné dans un projet, tu es obligé de définir, parce que les évaluateurs ils vont dire c'est quoi votre définition. Mais ce que disait. Juste dire ce que disait Olivier sur le fait qu'effectivement il faut pouvoir définir, mais définir de manière, pour le coup, pas essentialiste, une définition progressive, une définition ouverte, parce que c'est pas possible de définir un truc qui commence en 76 et un continuum qui intégrerait les punks d'Armand, les Bérus et je sais pas quel groupe de 77.
Ben, d'autant qu'on l'a vu, c'est des types qui ont des positions radicalement opposées, ouais, qu'elles soient politiques, ouais, sociales, musicales même. En 76, le hippie, le bon hippie est un hippie mort, hein, pour le punk c'est ce qu'on dit. Ouais. Aujourd'hui, les types vous disent, je vais faire une communauté à la campagne, je suis un punk bâtisseur, bon, voilà. Voilà, on a fait un tour complet, et c'est toujours du punk. C'est comme ça.
Juste une remarque, je crois que il faut prendre néanmoins très au sérieux. Avec nous, avec le recul, on peut dire bon, les positions ont évolué, etc. Mais il faut les prendre dans le temps, dans le moment très précis où elles s'affirment, aussi également. C'est-à-dire que lorsque, en 80, un groupe, qu'il soit français, anglais ou américain, se dit punk, on peut le considérer comme tel, mais lorsqu'il se dit résolument anti-punk, il faut, ou non-punk, il faut le prendre comme tel également. Pourquoi ? Parce que, et ça rejoint ce que vous avez dit dans votre communication. Parce que, on le sait, dès 75-76, le punk est une construction journalistique. Et par conséquent, il y a deux choses qui se catapultent, la revendication identitaire et puis la revendication, enfin la construction spectaculaire de ce que pourrait être le punk et sa récupération immédiate. Je rappelle que dans le journal Vogue, on a dès 1977, automne 1977, alors que Sylvie Schuss rejoint les Sex Pistols, vous voyez, on est quand même au quasi origine de la chose, un premier défilé de mode qui est qualifié de punk. Ouais. Vous voyez la récupération immédiate qui est très intéressante, et par conséquent, l'anti-punk des années 80 a raison de se dire en réalité anti-punk, parce qu'il ne le dit peut-être pas par non-reconnaissance de traits musicaux ou de postures politiques ou autres, mais simplement parce que c'est déjà une image extrêmement corrodé, galvaudé, et qui se monnaie très facilement.
D'ailleurs, en 80, les années 80, même si ça peut paraître tout à fait anecdotique, on s'autodésigne comme quepon. On est passé au verre. Il y a d'autres manières aussi de se désigner comme punk. On est quepon.
Il n'y avait pas de punk qu'avec les non-punks ou la famille. Sinon, c'était quepon. Ça n'existait pas.
Un exemple assez drôle, en 1977, un des premiers contacts de ce qui n'est pas encore complètement la souris déglinguée, parce qu'ils sont en train de chercher leur formule, et c'est justement à l'occasion de ce concert qu'ils rencontrent Rico, le bassiste, et les affiches au Chesnay, leurs affiches c'était la souris, enfin je ne sais même pas s'il y avait le nom, c'était groupe pas punk du tout.
Bien sûr.
Mais c'était évidemment le jeu sur...
Ouais. Bon. Mais parce qu'il y a ce que dit Olivier aussi, ce phénomène de récupération très rapide, et les gens ont intérêt aussi, tout en restant dans une énergie finalement assez commune, ou de filiation, mais à se poser en s'opposant une fois de plus, c'est-à-dire nous on n'est pas punk, on n'est plus punk, on l'a jamais été.
Ouais, mais là quand il y a le du tout, c'est carrément de l'ironie pure, c'est-à-dire que c'est...
Alors peut-être pour aborder ça, parce que c'est un point que j'ai pas eu le temps de discuter, mais qui était sur justement, c'est qui c'est... ces gens qui finalement sont en désaccord, ou en tout cas c'est détenteur d'une légitimité à parler du punk, à se revendiquer, etc. Il y a d'une part donc les anciens acteurs des différentes périodes, etc., les participants, hein, qui ne sont pas forcément d'ailleurs acteurs dans un groupe, mais ceux qui ont été punk, quoi, et qui peuvent les revendiquer. Et puis il y a des aspects, des demandes, ou en tout cas des lieux plus institutionnels. D'une part, ce qu'on va appeler les médias, enfin, les journaux, les critiques, etc. Aujourd'hui, les institutions culturelles, celles qui peuvent dire on fait de la programmation punk, celles qui peuvent dire on fait une expo sur la philharmonie ou autre, ou quoi, sur la musique, sur le fanzina, etc. Parce que tout à coup, ça revêt un côté très, très à la fois vintage, comme le punk, ça va être vite exhaustif aussi, on peut avoir les principaux personnes, etc. etc. Donc, les institutions culturelles qui étaient quand même, qui ont gardé les portes, enfin, je suis épaté de voir aujourd'hui comment Pink ouvre des portes qui ont été fermées au punk pendant toute l'histoire du punk pendant 20 ans. Hein, même le printemps de Bourges, les transmusicales, ils ont mis énormément de temps à s'ouvrir. C'est vraiment à la toute fin des Bérues que tout à coup ils ont découvert le truc. Aujourd'hui, ils sont très à le punk, on l'a toujours soutenu, mais c'est pas vrai du tout en fait. Hein, c'est, ni les magazines, même les rock and folk, best et tout ça, ils en ont parlé. Mais c'est toujours un peu, ouais, mais bon, c'est avec un certain dédain et tout ça. Donc, c'était pas du tout un truc mainstream, y compris dans ces endroits de sous-culture ou de reconnaissance des diversités culturelles. Alors, comment aujourd'hui on a des acteurs dans ces institutions qui ils sont tout aussi légitimes, par exemple, pour faire des expos sur des thèmes, parce que c'est leur boulot? Comment ils voient la chose, comment ils se permettent, ils s'arrogent le droit de définir, d'exclure, d'inclure, etc. C'est
moins ça. On va être obligé d'arrêter, je suis désolé.
Et enfin,
qu'on remette les tables, on va compter sur vous. La prochaine séance a lieu le 17 mai. Sur le thème dire ou ne pas dire. Alors voilà, en termes de méthodologie, est-ce qu'on dit tout, est-ce qu'on peut tout dire?
Donc il y aura au moins, il y a un deuxième intervenant en cours, ouais. Le premier ça sera Gilda Lescope qui a travaillé sur les skinheads et qui vous racontera comment c'est facile de travailler sur les skinheads, comment on fait arrêter par ARG, tout ça. Pas la première séance parce que c'est moi qui ai enregistré, ouais, c'est tout pourri. Mais à partir de la deuxième séance, c'est déjà en ligne sur le site. Vous pouvez réécouter les interventions, il y a les photos, il y a tout ça.
Merci à tous et à très bientôt.